J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatchez et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux, et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Alain Deneau et la poète Georgette Leblanc. Alain Deneau est philosophe, auteur et professeur de philosophie et de sciences sociales à l'Université de Moncton. Il est l'auteur de nombreux livres, notamment d'une série de trois feuilletons théoriques sur l'économie parus chez Lux Éditeur. L'économie de la nature, l'économie de la foi, ainsi que l'économie esthétique. Il a également écrit plusieurs titres de la collection « Lettres libres », toujours chez Lux Éditeur, notamment sa toute dernière parution, « Bande de colons, une mauvaise conscience de classe », publiée en septembre dernier. Il nous tardait de discuter avec M. Deneau de la polysémie du terme « économie », de sa pluralité de sens. En effet, en questionnant le terme même d'économie, avec ses trois feuilletons théoriques, nous pouvons affirmer qu'il y a un pouvoir dans les mots et dans la langue. Nous avions donc envie de creuser avec lui d'où provient ce pouvoir et comment il circule. Suivant le principe de l'émission, nous avons demandé à M. Deneau de choisir un ou une poète pour participer à l'émission. Son choix s'est arrêté sur Georgette Leblanc.
Alors, M. Deneau, quand vous me dites, moi je ne suis pas un lecteur de poésie, en fait, mais qu'est-ce que vous ne lisez pas?
Je dirais simplement que c'est pas très intéressant sur le plan de la discussion publique, là, mais simplement, pour le dire rapidement, j'ai une tournure d'esprit qui est attirée par ce qui est sémantique, hein, ce qui est comme immédiatement parlant ou à tout le moins suggestif. Et c'est la raison pour laquelle je me sens assez démuni quand je suis confronté à la poésie ou à la musique ou à la danse, par exemple. Parce que l'emprise est difficile, on est plutôt dépossédé. Bon. Cela dit, il y a deux courants, deux époques en poésie qui m'intéressent beaucoup. C'est la poésie française du milieu du 20e siècle. René Char, Francis Ponge, Jules Supervielle, Paul Éluard. Parce que ce sont des poètes qui me semblent voisiner des genres appartenant aux sciences sociales. Donc ça, d'une part, ça j'accroche, parce que je vois qu'il y a des points d'ancrage là, qui sont assez nets. Et d'autre part, il y a un courant que j'apprécie énormément, qui a été très formateur et qui m'a justement permis, moi, dans mes jeunes années, de comprendre que la langue n'était pas strictement un outil de communication, comme on essaie de nous le faire croire, mais au contraire, un vecteur d'émancipation. C'est la poésie québécoise également, du milieu du 20e siècle, mais surtout au tournant de la Révolution tranquille. Là, on peut commencer même un peu avant avec Rina Lanier, Alain Grandbois, de Saint-Denis Garneau, mais évidemment jusqu'à la belle époque de Miron, puis Jacques Brault, et puis Paul Chamberlain, et Michel Lalonde, et toute cette mouvance. Et parce qu'elle est, cette poésie, elle est épique. Elle parle d'un peuple, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail de Georgette Leblanc. J'ai été soufflé par Prudent, parce que là, j'y vois, ça c'est lié à mes tournures d'esprit, là, j'y vois une épopée racontée avec un souffle qui n'est pas celui de la langue communicationnelle. Si on dit qu'est-ce que la poésie, on sous-entend tout de suite, mais impérative, que la poésie est ontologique, qu'elle a un être, quoi, qu'elle est réductible à quelque chose d'essentiel qu'on peut saisir, nommer, alors que précisément, la poésie échappe à l'être au sens de la définition ontologique, là, de la définition qui fige. Non, la poésie glisse, elle nous échappe.
Je ne sais pas c'est quoi la poésie, j'ai aucune idée. J'ai aucune définition. C'est un petit peu frustrant parce que je suis poète, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Puis c'est un petit peu. Je sais pas. Fait que je fais pas la cute, là. Je dis pas ça comme ça pour jouer l'intéressante. C'est sincère. Je sais pas ce que c'est pour moi écrire, ou en tout cas comme j'écris, ou ce que je perçois comme étant peut-être un petit peu la poésie, c'est une c'est comme une zone ou une région, une expérience humaine avant, presque pré-langage. C'est comme une, c'est jouer avec les mots, c'est jouer avec le langage à parler d'une expérience humaine. Ça fait que c'est comme une, c'est une zone pré-langage, selon moi. Puis on utilise les mots pour exprimer ce qui devient poétique, ce qui devient comme, une, comme un retour à cette possibilité-là, signification multiple possible du mot. Pour moi, c'est ça la poésie.
Écrivaine de romans en vers libre, de poèmes et de chansons, Georgette Leblanc offre une écriture qui transcende perspective, temps et genre pour échapper à toute contrainte. Parmi ses dernières œuvres publiées, notons Prudent en 2013 et Le Grand Feu en 2016 aux éditions Personnages. Georgette Leblanc a été la poète officielle du Parlement du Canada en 2018 et en 2019. Vous entendrez maintenant un extrait de la poésie de Georgette Leblanc.
Retour de l'exil. Les bottes arrivent des États, et non qu'Adolphe revint au pays. Quand les richesses sont plus là, et que le monde a faim, et que la terre est sec, les hommes et les femmes commençons à se regarder comme des bêtes. L'idée eut vint à la tête de se dévorer. Parce que la ville est rien que faite pour la richesse, ceinture qui bat aux veines d'argent. Donc Antoine nous raconte ça sans embellissement. Il dit, entendu le tueur de Boston mourir, ça n'a point pris longtemps. Comme si l'argent avait jamais été là, comme s'il n'y avait rien de vrai du tout. C'est ça la mort. Elle nous appartient. Point.
Ce que j'apprécie beaucoup dans le travail de Georgette Leblanc, c'est cette façon fondamentale de contourner ce qui aurait pu être une tentation du folklore. Et on a là une langue qui a une mémoire singulière et qui a une acuité, une contemporanéité vive. Hein, c'est une langue qui est assumée pour maintenant et qui n'a pas l'ombre du début de quelque chose, d'une complaisance folklorique. Bon, et c'est ce qui fait sa puissance, hein, et c'est son présent. C'est vraiment la raison pour laquelle je suis ravi qu'on discute.
C'est intéressant que vous parliez d'un attachement à la sémantique pour dire que vous n'êtes pas trop un lecteur de poésie, comme vous aimez, vous êtes désarçonné par la musique et la danse. Parce que la sémantique, ça concerne la signification linguistique. Évidemment, on fabrique des poèmes avec du langage. Et donc, il y a nécessairement une sémantique dans le langage. Mais j'aime bien le rapprochement avec la musique et la danse, en fait. Et puis là, je me demandais... Quels sont les liens ou les parallèles qu'on pourrait faire entre une pratique de la création de la poésie puis d'autres pratiques de création artistique? Pas nécessairement une discipline en particulier, mais ça peut être un champ de un type de pratique à l'intérieur même d'une discipline, comme un genre musical, ou etc. Mais le lien avec la musique et la danse m'intéressait.
Simplement, quand il était question de haine de la poésie, moi, ça m'a fait penser au livre de Pascal Quignard, La haine de la musique. Et évidemment, quand Pascal Quignard écrit La haine de la musique, il n'est pas lui-même haineux de la musique. Et quand on lit son texte et qu'on le comprend, on ne partage pas non plus une haine. Simplement, on comprend que, comme le vent, la musique et la poésie peuvent être absolument déroutants pour l'esprit. Et c'est, je dirais même, souhaitable. Et là où... moi, je dis souvent aux gens, parce que je ne suis pas particulièrement mélomane, hein, je ne pourrais presque dire je ne le suis pas du tout. Je dis souvent aux gens que tel est le cas parce que j'aime trop la musique, parce que je la respecte trop, elle m'intimide trop, je la trouve trop grande et je pleure de voir comment on a réduit la musique à une espèce de média d'ambiance valant pour lorsqu'on conduit une voiture ou lave de la vaisselle. J'ai envie de dire que je hais la musique parce que je la respecte trop, je la respecte dans sa puissance, et je pourrais presque dire la même chose de la poésie.
Ben, c'est, je sais pas, je voulais revenir à une idée qui m'est venue en tête. En écoutant, ben, juste le langage, pousser le langage. C'est comme ça, comme n'importe quelle discipline, laquelle discipline, la danse, la musique, les arts, le langage devient, le langage est un code ou est un outil, finalement. C'est pas le langage vu tout seul. Il y a quelqu'un qui écrit, il y a une personne qui danse, il y a une personne qui compose, il y a tout un, ça fait que c'est pas le langage qui crée. Il y a un système, il y a une façon de concevoir la danse. Mais qui a été pensé, conçu par une personne, par un humain. Point. Donc, on n'est pas comme prisonnier non plus de ça. On peut l'accepter ou non. On peut l'aimer ou non. On a parfaitement le droit de ne pas aimer ou non, ou de ne pas acheter, ne pas se faire acheter non plus. Puis de laisser aussi le corps réagir d'une manière très viscérale à une expérience émotive qui, selon moi, est vraiment ce que, à la base, ce que c'est l'art, ce que c'est la création artistique. C'est une autre manière de parler, d'exprimer ce qui se passe chez l'être humain, d'essayer de concevoir. J'essaie d'écrire l'histoire. En poésie, j'essaie pas, je le fais, c'est ce que je fais parce que c'est ce que j'aime, j'y pense pas. Je dis que j'y pense pas, j'y ai pensé longtemps. Mais c'est pour dire que si j'écris comme ça, c'est parce que je le veux. Ça vient d'une expérience humaine vécue d'une seule personne, moi, tout petite, pratiquement illettrée. Une expérience difficile parce que je questionne depuis le début. J'ai écrit dans cette langue-là parce qu'il fallait le faire ou parce que je ne suis pas consciente. Fait que, il a résisté, il a vouloir écrire une nouvelle histoire quelque part. Sans prendre le costume d'historienne, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on pense que j'écris la vérité. Mais il a aussi résisté à la littérature. Puis ce n'est pas parce que je ne suis pas intéressée, que je ne l'aime pas, que je m'en fous, que je m'en moque. Au contraire, mais j'ai... ouais. Il y a une rage.
Mais je comprends... Je comprends si on applique effectivement la notion de discipline, c'est une notion qui vient par la suite comme circonscrire un champ d'activité. Mais si on l'aborde du point de vue ou à partir de la notion de matériaux, par exemple. Donc, un danseur travaille avec le matériau corps, le matériau mouvement, le matériau espace. Le sculpteur, le matériau pierre, des matériaux que j'ai envie de qualifier de directs. Donc, la lumière, les vibrations de l'air, etc. Tandis que le langage, il me semble, c'est un matériau culturel. Donc, c'est l'usage d'une communauté de locuteurs qui façonne le matériau, qui est en quelque sorte organique. Dans le mot même, le mot charrie une histoire. Donc, c'est là qu'on retrouve cette idée d'usure, en fait. Là. Donc... Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de dire... Parce que moi, je réfléchis beaucoup à ça, en fait, parce que il y a comme un degré de plus en tant qu'écrivain, ou en tout cas que personne qui crée de l'art à partir du langage, il y a comme un degré supplémentaire entre son matériau puis l'accès direct à la réalité. C'est-à-dire que la pierre, elle est directement accessible dans la réalité. Le langage, c'est ce qu'on a tous et toutes façonné ensemble et qui désigne la pierre. Tu sais.
On entre dans le langage, puis là, du trou, puis là, comment ça, puis là, puis on apprend, on absorbe, bon. Et puis, donc, quelque part, c'est comme un environnement, c'est un écosystème, c'est quoi qui nous arrive. Et donc, notre expérience, notre langage, ce premier langage-là, ce premier code-là appris avec la famille autour, puis ensuite à l'école, on est presque passif là-dedans, tu vois? Et devient quelque part comme un territoire.
Ah, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit là, en vous entendant. D'abord, moi, j'aime pas du tout la métaphore d'écosystème, là, parce que je lui préfère justement celle d'économie ayant une histoire. Mm-hmm. Et celle d'écosystème venant un peu comme un cheveu sur la soupe, précisément parce que ceux qui ont tout à perdre à ce qu'on redonne au mot d'économie, hein, ses droits, sa mémoire, sa profondeur, son passé, c'est-à-dire les économistes qui se sont appropriés ce mot-là, et ceux-là même, ces économistes qui, pour la plupart, ont travaillé à élaborer une adéquation entre le mot économie et celui de capitalisme, hein, ces économistes-là ont besoin de faire oublier le rapt historique qui est le leur, c'est-à-dire ce vol, hein, ce détournement du mot d'économie, en se rapprochant d'une manière assez cynique, hein, de ce qu'ils mettent en péril, c'est-à-dire le vivant, en disant, au fond, nous, on s'intéresse à des écosystèmes. C'est le comble du cynisme. Bon. Et on a développé cette métaphore de l'écosystème. Hein, une entreprise, c'est un écosystème. Un marché, hein, c'est un écosystème. Bon. Alors qu'il s'agit d'économie. Et ce que j'entends, moi, par rapport à ce que disait Georgette Leblanc à l'instant, là, c'est cette idée que, pour faire un lien entre l'économie esthétique, hein, qui consiste à produire, hein, du sens à partir de la création lexicale, sémantique, et de déjouer des formes, c'est ce qu'en psychanalyse, hein, parce qu'il y a une relation, il y a une résonance en psychanalyse, Freud lui-même appelait la devise névrotique. Et la devise névrotique, pour Freud, la devise, c'est au sens, là, en anglais, de la currency, là, de la devise au sens là, de l'émission de monnaie. C'est la métaphore là, qui est assumée. La devise névrotique, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'il faut dire, hein, d'une manière morale et sociale, hein, dans l'ordre constitué. La devise névrotique, c'est toutes les obligations lexicales, comportementales, conformiste, hein, de la vie sociale qui pèse sur l'appareil psychique, hein, et ce que dit, et je pense que les canons esthétiques en font partie, hein, parce que socialement, il était question tout à l'heure d'être connu sans être connu, hein, hein, c'est que socialement, si on veut être connu, ben, il faut, faut faire Céline Dion, quoi, faut faire le Cirque du Soleil, il faut entrer dans des codes qui sont socialement partagés, qui participent de la devise névrotique. Et ce que j'entendais, là, c'est l'idée que les auteurs, les poètes, les créateurs, les artistes qui ont une vocation réellement et qui ne sont pas là pour les perversions du star system ou je ne sais trop pour régler quel problème psychologique, mais qui ont un appel, une vocation, hein, dans leur travail, cherchent précisément à percer les rigueurs de la devise névrotique, hein, à laisser les pulsions découvrir des formes qui ne sont pas obligées, qui ne sont pas impérieuses. Et c'est là où je découvre la poésie. Et très souvent, c'est pour ça moi, que je trouve ça déroutant, la poésie, c'est que très souvent, quand elle est bien faite et quand on la reconnaît forte, on y voit souvent une sorte, chez Gauvreau, c'est particulièrement vrai, mais chez Gauvreau, il y a quelque chose d'irrecevable, et c'est même des borborismes, puis des onomatopées, parce que on sent que la dimension pulsionnelle pulvérise la forme, quoi, et trop importante. Il y a comme un tel carcan, hein, qu'on veut transcender ou surmonter, qu'on finit par et faire irruption sous le mode presque pur de la pulsion, là, presque déformalisé, et c'est très difficile à recevoir.
Pour moi, vous évoquez l'épaisseur du mot. Le mot a une mémoire, il a une épaisseur, et puis donc il y a deux approches. Il y a l'approche où on veut réduire le mot à une unique facette, une unique interface univoque. Et il y a la démarche inverse qui vise à puiser, à forer des carottes dans l'épaisseur du langage pour aller voir qu'est-ce qu'on y trouverait sans présupposer dès le départ de ce qu'on cherche. Puis cette démarche de vouloir redonner son épaisseur au mot économie est vraiment intéressante, mais ça présuppose aussi qu'il y a un pouvoir dans la langue, un pouvoir que peut s'arroger un système comme un système capitaliste, par exemple. Et j'aimerais ça qu'on en parle, en fait, de ce pouvoir-là de la langue, en fait.
La question ainsi posée ne me place pas dans une situation où j'aurais une compétence particulière pour y répondre. Ce qui m'étonne, moi, dans le capitalisme, c'est à quel point, d'une part, il est poétique, tristement poétique, c'est une poésie navrante, c'est une poésie grossière, mais poétique quand même. On nous parle de gouvernance, on nous parle du moral des ménages, on nous parle de la croissance, on nous parle du déchaînement des forces du marché. On est continuellement dans une sorte de métaphorique à la fois grossière, ancienne, éculée et efficace, en même temps comme le cinéma d'Hollywood a son efficacité, on revient au canon, là, bon. Et en même temps, cette idéologie-là met en scène l'absence de mise en scène. Métaphorise l'absence de métaphore, c'est-à-dire qu'elle essaie continuellement dans une esthétique réaliste, quoi, si on veut, essaie continuellement de faire passer ce qu'elle produit sur un plan sémantique et esthétique comme étant vrai, comme étant du domaine de la rigueur, du réel, dur, absolu. Et c'est pour ça que dans l'économie esthétique, moi, je me suis intéressé à ce chiasme continuellement. On a des écrivains, des artistes, qui comparent la crise du langage à laquelle ils sont confrontés à la crise monétaire. Où continuellement, on nous présente le monde comme fonctionnant du point de vue du langage, à la manière de la monnaie, en tant que la monnaie est une fiction, en tant qu'elle est tout le temps fausse, en tant qu'elle est toujours érigée d'une manière artificielle, conventionnelle, fragile, précaire, bon, on peut dire strictement convenue. Et au fond, les artistes sont les mieux placés. Ce dont je me désole, c'est qu'ils ne soient pas plus engagés dans ce débat public, mais ils sont les mieux placés pour pointer du doigt les artifices du régime capitaliste et de son idéologie, puisqu'ils ont eux-mêmes, dans l'histoire, généré les modalités esthétiques par lesquelles ce régime-là s'érige, développe sa scène, impose son récit comme étant, par contre, vrai, c'est qu'on met en scène un récit en tant qu'il n'est pas un récit. C'est une illusion théâtrale, mais qui fonctionne à un degré délirant. Bon, c'est un délire, le capitalisme, dans sa production esthétique. C'est l'illusion et la fiction au stade du délire, parce qu'on n'arrive pas jamais à rattraper le moment où on comprend que ce qu'on voit est fictionnel. Et c'est là où son côté créatif est en même temps stérile. C'est l'équivalent pour l'agriculture des semences de Monsanto. C'est-à-dire que c'est une semence qu'on a créée en s'assurant qu'elle n'en génère pas d'autres, que la création s'arrête là.
Ça, c'est une œuvre. Dès que c'est publié, dès que c'est encadré, dès que c'est présenté comme produit dans le marché du blablabla, ça devient autre chose. Le moment de création est fini, terminé. Et puis, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de... En fait, on commente, on analyse, on s'échange des bribes autour de ce qui a été produit. Point. La création est finie. Il n'y a plus de création. Mon livre, il y a une mort déjà, n'est-ce pas? C'est fini.
On arrive au moment où je vais paraphraser Ben Lerner qui paraphrase Shelley. Pour des romantiques tels que Shelley, la poésie vient contrecarrer l'avarice calculatrice de la société Elle y fait contrepoids en offrant une alternative à l'utilitarisme crasse aveugle, à tout ce qui ne peut être instrumentalisé. L'unité de la poésie est dès lors liée à son inutilité. J'ai envie de vous retourner la question. Donc, quelle est l'utilité de la poésie en particulier puis de l'art en général? En
fait? Ça, justement, moi, c'est de la poésie. Je trouvais ça triste parce que justement, elle n'était pas utile. Puis moi, j'ai grandi. C'est comme c'est un pragmatisme. Ça prend ça dans la vie pour être une bonne personne, n'est-ce pas? Ça fait que ça ne marchera pas, la poésie, parce que c'est comme l'anti-pragmatisme quelque part. Ça, c'est mon expérience personnelle. Déjà, c'était comme compliqué. Quelque part, je voulais comme si j'avais en tête déjà une idée de ce que j'allais faire qui n'est pas vrai. Mais j'avais comme une impression ou un sentiment, une émotion que je n'étais pas satisfaite. Si j'arrivais pas à communiquer dans ma tête, je me disais si j'arrivais pas à communiquer quelque chose qui était déjà un problème, parce que normalement en poésie ça devrait pas être trop important. Je voulais communiquer, puis je voulais justement qu'il soit utile dans ce sens-là. Je voulais que la réception, c'est-à-dire le lecteur ou la lectrice arrive à pas décoder, pas de se défaire en mille morceaux pour essayer d'arriver à un sens, à quelque chose en lisant ce que j'avais écrit, qui vive une émotion, justement, qui puisse ressentir quelque chose, qui déteste ou qui l'aime, peu importe, mais qui vive quelque chose. Donc, il y a comme une intention, il y avait une intention, une volonté intentionnelle de ma part de communiquer par le langage non seulement une expérience émotive, mais aussi logos, quelque part, de faire sens d'une histoire qu'on va raconter.
En fait, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette idée que la poésie vient contrecarrer tout ce qui est l'avarice calculatrice de la société, puis qu'elle fait contrepoids à l'utilitarisme, en fait. Et donc la poésie est utile par son inutilité. En fait.
On pourrait dire de triste, on se dira, c'est utile, c'est triste, c'est plate, c'est fini, c'est comme un... Mais non. Fait que je sais pas, l'autre problème, c'est utile pour qui et à qui et pour quelle fin. Ça fait que moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu en ce moment, c'est on crée, il y a ce moment-là de création qui est pas du tout la même chose, qui est différent du moment de production et puis ensuite de la vente, de la diffusion, de la réception de l'œuvre. Et ne nous appartient pas. Et c'est juste. Sauf que c'est compliqué. Monsieur Deneau.
Oui, c'est compliqué. ce qu'on pourrait dire, il me semble, sur cette question de l'utilité, Pierre Klosowski, par exemple, a tenté de montrer que la notion d'utilité est elle-même une fiction. C'est-à-dire qu'on finit par conférer de la substance à des propositions idéologiques qui sont du vent, hein, qui ne reposent sur rien d'autre que leur propre postulat. L'utilité aujourd'hui, ça serait une voiture. C'est utile, une voiture, c'est même nécessaire. Ben, on voit bien qu'il y a une construction là-dedans. C'est utile dans un système qui est celui du consumérisme, hein, du productivisme, hein, de la médiation par le salaire, de tout accès aux biens marchands qui sont devenus indispensables. Donc, là, Klosowski essaie de montrer que le statut utile de quelque chose relève lui aussi d'une fiction. Bon, et la poésie est tout à fait subversive quand il s'agit de penser les choses à leur source. Je dirais, pour prendre le contre-pied, que la poésie n'est surtout pas utile, hein, surtout que l'utilité, elle est utile dans la mesure où elle nous fait voir que l'utilité ne l'est pas. Hein, mais aussi, elle est, peut-on dire, efficace. On peut au moins dire ça. Elle a de l'effet.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL. Et la Ville de Québec, via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.